Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
Ça me semble une question de bon sens. Les gens de notre âge, mon âge en particulier, s'ils contactent la maladie, c'est fatal pour eux.
Écho du début des vaccinations ce matin chez les plus de 75 ans à Nancy. La campagne décolle enfin, près de 200 000 vaccinés, mais encore des réticences dans les EHPAD. D'inviter l'Europe Midi, une directrice d'EHPAD du 13e arrondissement de Paris, Romy Lasserre-Saint-Maurice. Il faut mieux protéger les enfants, imposer de nouvelles mesures dans les écoles, demande du conseil scientifique. Trump, menacé de destitution et visé au portefeuille, lâché à la fois par les ténors du Parti Républicain et par les milieux d'affaires. Carrefour étudie un rapprochement avec un géant de la distribution du Canada, le groupe Couche-Tard. Le football français séché par l'annonce de Canal+, qui réclame un nouvel appel d'offres sur les droits télé et ne lui fera aucun cadeau. Et puis finale à suspense sur le Vendée Globe, 5 skippers dans une zone de 50 km au large du Brésil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À nouveau l'heure des décisions difficiles pour le gouvernement face à une situation très incertaine et très contrastée. Les hospitalisations pour Covid n'augmentent pratiquement pas, mais elles ne baissent pas non plus. Le variant britannique est entré en France, mais il ne représente que 1% des tests positifs. Un conseil de défense sanitaire est réuni ce matin à l'Élysée. Ces décisions sont annoncées demain soir par le gouvernement. L'idée d'un couvre-feu à 18h généralisé ou étendu à d'autres départements que les 25 actuels est l'une des hypothèses étudiées. Autre question, que faire dans les écoles? Le conseil scientifique recommande de laisser les écoles ouvertes, mais avec une surveillance beaucoup plus stricte. Victor Delande, les taux de positivité des jeunes enfants se sont brusquement envolés.
Oui, il y est de 10% chez les enfants de 0 à 9 ans, alors qu'il n'était encore que de 3% il y a une semaine. Alors, écartons tout de suite la piste de la rentrée des classes. Ce sont des tests réalisés pendant le week-end du Nouvel An ou la semaine dernière. Et s'il y a eu plus de résultats positifs, cela veut dire qu'ils ont été contaminés avant, donc pendant la période des fêtes. En revanche, première explication possible, des tests beaucoup plus fréquents chez les enfants, c'est mathématique. Plus on teste et plus on a de chances de trouver des cas positifs. Deuxième explication possible, le variant anglais, très contagieux aussi chez les plus petits, est davantage présent sur le territoire que les cas réellement détectés. Mais si le taux de positivité a triplé en 10 jours, le nombre de contaminations, lui, reste relativement faible. Demain, il y aura sans doute donc à renforcer le protocole dans les écoles pour les laisser ouvertes. Et la solution viendra peut-être des mathématiques, les équations pour prévoir les déplacements et les contacts potentiels des élèves et des enseignants. Ajoutez à ça les données épidémiologiques et les plans d'établissement. Vous faites tourner le tout dans des grands ordinateurs et vous trouvez la meilleure organisation possible de l'emploi du temps pour limiter les contaminations. Bertrand Maury, professeur de mathématiques à l'Université Paris-Saclay, nous donne un exemple concret au moment du déjeuner.
On peut étudier des scénarios de type suppression de la cantine, tout simplement, avec pique-nique, ou alors étaler l'ouverture de la cantine, plutôt que d'avoir deux services, avoir trois ou quatre services, par exemple. Donc avec à chaque instant un nombre de personnes moins important, avec évidemment une limitation du brassage, donc qui a priori est de nature à faire baisser le risque.
Autre piste d'amélioration, faire bouger les professeurs de classe en classe plutôt que les élèves, ça limiterait considérablement les brassages. Possibilité aussi d'améliorer les récréations et de réduire au maximum la circulation des élèves.
Victor Delande, côté vaccination, le compteur du ministère de la Santé affiché hier soir 190 000 avec un objectif de 400 000 à la fin de la semaine. Et avec 5 jours d'avance sur la campagne nationale, les vaccinations des plus de 75 ans hors EHPAD ont débuté ce matin à Nancy, Arthur Mbaché.
Au palais des congrès de Nancy, un des centres de vaccination lancé ce matin et au milieu des cheveux blancs, des cannes et des déambulateurs, il y a avec son béret sous le bras Jacques, 91 ans.
Je vous écoute.
Bonjour.
Je suis un peu dur d'oreille.
Il n'y a pas de souci, on va parler fort.
Je vous laisse vous installer sur la chaise et vous allez être appelé par le docteur.
Jacques, vous me disiez juste avant, là vous êtes impatient.
Ah ben très, pour ma vie tout simplement. Ça me semble une question de bon sens. Les gens de notre âge, mon âge en particulier, s'ils contactent la maladie, c'est fatal pour eux. Bon, il ne faut pas se cacher les choses.
C'est important que dans les territoires les plus touchés, la vaccination aille plus vite.
Le maire de Nancy, c'est le socialiste Mathieu Klein.
Et d'ailleurs, j'ai constaté avec plaisir que un très grand nombre d'habitants s'étaient précipités sur cette possibilité qui leur était offerte. Pour la seule journée d'hier, 9000 appels ont été reçus sur la plateforme téléphonique et ce sont déjà 15000 rendez-vous de première et deuxième injection qui ont été fixés. Nous tordons le cou à l'idée que les Français sont vaccino-sceptiques.
un millier d'injections chaque jour. C'est la cadence prévue ici dans les 9 centres de vaccination de la métropole de Nancy.
Arthur Mbaché à Nancy pour Europe 1. Demain, pour tous les plus de 75 ans, une ligne téléphonique sera ouverte pour la prise de rendez-vous dans les EHPAD où la campagne devrait s'achever à la fin du mois. Le gouvernement s'inquiète de la défiance persistante à l'égard du vaccin. Seuls 20% des personnels en EHPAD ont accepté de se faire vacciner. On y revient dans 10 minutes avec notre invité Romy Lasserre-Saint-Maurice, une directrice d'EHPAD à Paris. La crise sanitaire qui atteint les sommets aux États-Unis, près de 4500 morts en 24 heures, nouveau record. La ville de New York craint de manquer de vaccins d'ici la fin de la semaine prochaine. Elle arrive au bout de ses stocks. À ces morts du Covid, il faut ajouter un autre décès. Lisa Montgomery, 52 ans. Elle a été tuée dans la nuit par une piqûre mortelle dans un pénitencier de l'Indiana. Première exécution fédérale d'une femme en près de 70 ans aux États-Unis. Montgomery avait commis un crime atroce il y a 17 ans. Elle avait tué une femme enceinte de 8 mois pour lui voler son fœtus. Ses avocats, qui plaidaient des troubles mentaux sévères, avaient obtenu d'un juge fédéral un sursis à exécution, mais la Cour suprême a validé la mise à mort de la condamnée malgré le désaccord des 3 magistrats progressistes. C'est l'un des derniers actes de la présidence Trump. Il devrait y en avoir 2 autres. 2 hommes doivent encore être exécuté cette semaine, jeudi et vendredi aux États-Unis. Donald Trump, contre qui un nouvel acte d'accusation sera voté aujourd'hui par la Chambre des représentants, début d'une deuxième procédure d'impeachment. Trump, désormais lâché par une bonne partie des ténors républicains. Xavier Yvon, il y a maintenant la volonté, dans son propre camp, de tourner la page, et définitivement.
Alors oui, autant il y a un an pile, les républicains faisaient front uni contre la procédure d'impeachment, la première donc, autant cette fois, le front se fracture. Le très puissant patron républicain du Sénat se dit en privé favorable à cet impeachment. Selon les journaux américains, Mitch McConnell a confié à des proches que la procédure permettra, je cite, de purger Donald Trump du Parti républicain. Le mot est fort, le lâchage n'est pas encore public, mais il ne sort pas dans la presse par hasard. Hein. Mitch McConnell, grand Manitou des républicains, habile manipulateur, envoie ainsi un signal à ses troupes. On sait qu'il faudra 17 sénateurs républicains, en plus des démocrates, pour condamner le président sortant, avec au bout la possibilité de lui interdire de se représenter en 2024 et donc signer la fin de sa carrière politique. Alors la première étape, d'abord, c'est aujourd'hui, hein, le vote donc à la Chambre des représentants de l'acte d'accusation. Là aussi, les digues cèdent. La numéro 3 des Républicains a déjà annoncé qu'elle votera pour lancer la procédure avec des mots très durs contre Donald Trump. D'autres ont suivi, ce n'est pas fini. Leur chef de file a dit qu'il ne donnerait pas de consigne de vote. Il faut avoir à l'esprit que tous ces parlementaires qui ont soutenu mordicus Donald Trump ces 4 dernières années se sont sentis physiquement menacés la semaine dernière quand ils ont dû se cacher ou être évacués du Capitole. Et certains en veulent désormais personnellement à Donald Trump.
Volte-face aussi des grands patrons et des milieux d'affaires. Soudain pressé de couper les ponts avec le président américain, Trump, dans l'affaire du Capitole, a aussi perdu des soutiens financiers, Xavier.
Oui, dans une semaine, Donald Trump redeviendra un simple citoyen, il reprendra la tête de son groupe et le retour aux affaires s'annonce déjà compliqué. La Deutsche Bank aurait décidé de couper les ponts avec Donald Trump, d'après le New York Times. La banque allemande, c'est le principal créancier de Donald Trump avec un prêt en cours de près de 300 millions d'euros. Signature Bank, elle, va fermer les comptes personnels du président sortant. La mairie de New York envisage d'annuler ses contrats avec la Trump Organization, qui gère notamment pour la ville les fameuses patinoires de Central Park, pour un revenu annuel quand même de 17 millions de dollars. Google a aussi rejoint les géants de la tech en coupant la chaîne vidéo YouTube de Donald Trump. Et d'autres grandes entreprises américaines s'en prennent également à ses amis politiques. American Express, par exemple, a arrêté de financer les élus qui ont voté contre la certification de l'élection de Joe Biden.
Mais sans retirer la carte bleue de Donald Trump.
Pas encore.
Pas encore. Merci Xavier Yvon. En Russie, enfin en tout cas pour la Russie, l'opposant Alexei Navalny annonce qu'il rentrera dans son pays le 17 janvier malgré les menaces de prison brandies par le régime contre lui.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, Carrefour courtisé par un groupe canadien et le foot français qui va devoir reprendre tout son financement à zéro. Canal+ ne lui fera pas de cadeau.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Deux ministres visés par des enquêtes, on l'a appris ce matin. Éric Dupond-Moretti fait désormais l'objet d'une information judiciaire pour des soupçons de prise illégale d'intérêt à la Cour de justice de la République. C'était prévu et annoncé. Inattendu en revanche, cette enquête préliminaire révélée par Libération sur le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, pour avoir cumulé la présidence du conseil départemental de l'Eure avec un poste d'administrateur de la Société des autoroutes Paris-Normandie, une situation courante menace, dit l'entourage du ministre. Un bond de près de 9% pour l'action Carrefour ce matin à la Bourse de Paris, après l'annonce surprise d'un projet de rapprochement avec un groupe de distribution du Canada baptisé Couche-Tard. Des discussions encore très préliminaires, Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, ce sont les Canadiens qui ont décroché le téléphone pour faire part de leur intérêt. Il faut dire que Carrefour s'est bien redressé ces dernières années. Alors disons-le clairement, hein, on ne connaît pas très bien Couche-Tard ici en Europe. Ils sont spécialisés sur les magasins de proximité. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les dépanneurs au Québec. Ils ont des marques assez connues comme Circle K notamment aux États-Unis. Ils sont aussi en Europe au travers notamment de stations-service. Ils ont environ 15 000 magasins dans 25 pays. Ils emploient 130 000 personnes. C'est un groupe solide et plutôt en bonne forme financière. Si ça se fait, hein, ce sont eux qui rachèteraient Carrefour. Et pourtant, notre géant français est plus gros. Il emploie 320 000 personnes dans une trentaine de pays. Mais les deux groupes sont très complémentaires, notamment d'un point de vue géographique. Du coup, les deux parties insistent ce matin sur le fait qu'il n'y aurait pas de casse sociale. Ils sont complémentaires aussi sur les formats. Les magasins de Carrefour sont beaucoup plus grands. Du coup, chez Carrefour, on le reconnaît, cette offre est suffisamment intéressante pour que nous la regardions avec intérêt. Mais bon, maintenant, il faut entrer dans le détail. Et on le sait, hein, Patrick, hein, le diable se cache souvent dans les détails, surtout quand on parle de gros sous.
Mais vous êtes là pour les regarder, les détails, Emmanuel Dutheil. Pour le football français, la bamboche s'est terminée après le naufrage de Mediapro. Les clubs de Ligue 1 espéraient que Canal+, l'exclut de l'appel d'offres de 2018, allait jouer les bons samaritains en reprenant la diffusion des matchs, moyennant la bagatelle d'au moins 1,5 milliard d'euros. Eh ben non, pas de cadeau. Le patron de Canal, Maxime Saada, demande un nouvel appel d'offres, c'est-à-dire une remise des compteurs à zéro, et il fait comprendre que Canal peut très bien se passer du football. Alors que l'inverse n'est plus vrai, Cyril de la Morinerie.
Oui, la bulle est en train d'éclater. Hein. Les transferts et salaires XXL sont déjà du passé. Le foot français, largement financé par les droits de télé, n'a plus de ressources. Mediapro a fermé le robinet et Canal+ ne veut plus être la vache à lait du foot français. Le groupe a déboursé en effet 330 millions d'euros pour seulement deux petits matchs. Or, la chaîne cryptée n'entend plus bien surpayer un produit qu'il estime dégradé. Dans le Figaro, le patron Maxime Saada est d'ailleurs cash. Avec le rugby, ses audiences sont au beau fixe. Même la Formule 1 fait mieux que le foot. C'est donc un énorme coup de pression qui inquiète les clubs, pour certains bientôt au bord de la cessation de paiement. D'où la colère de Christian Leca, président de l'AC Ajaccio, l'un des rares à s'exprimer sur ce dossier.
Il est impensable que le football français ne soit plus retransmis sur les chaînes du groupe Canal+. Ça serait pire qu'une erreur, ça serait une faute. Tout le monde sera perdant, hein. Eux les premiers. Moi, je me permettrai pas de dire que certaines productions audiovisuelles de Canal sont des navets. Nous, on fait des efforts et de l'autre côté, on se fait poignarder dans le dos.
Et en plus, les clubs ne pourront pas compter sur le soutien de l'Élysée. L'État n'entend pas s'immiscer dans une affaire privée. En tout cas, à partir du 5 février, Canal+ ne paiera plus. Le patron de la chaîne propose à la place un système de pay-per-view, soit l'achat de matchs à l'unité, procédé qui en Angleterre a été un fiasco. Le risque, c'est de se retrouver dans quelques semaines avec un écran noir. L'affiche OM-PSG prévue le 7 février prochain, eh bien, pourrait être uniquement retransmise à la radio, notamment sur Europe 1.
Cyril de Marinerie, oui, sans les images. Pour le Vendée Globe, faudra-t-il une photo finish au Sable d'Olonne pour désigner le vainqueur à 15 jours de l'arrivée? Finale inédite au large du Brésil avec 5 skippers regroupés sur une cinquantaine de kilomètres, Corinne Boulou.
Oui, c'est un incroyable scénario, Patrick. Souvent, dans le Vendée Globe, nous avons eu des mano à mano dans la dernière ligne droite, comme il y a 4 ans, par exemple, entre Armel Lecléache et le gallois Alex Thompson. Mais sur cette édition, le chassé-croisé se poursuit aux avant-postes, au large des côtes nord-est du Brésil. Yannick Bestaven a vu son avance de 800 km fondre comme neige au soleil des tropiques lundi, arrêté par une bulle sans vent. Et du coup, il a vu revenir dans son tableau arrière non pas un poursuivant, mais une meute de poursuivants. Et si le Rochelet avait bien repris les commandes provisoires de la course ce matin, et bien au classement de midi, c'est Charlie Dalin qui est à nouveau pointé en tête, avec à peine 4 nautiques d'avance, soit environ 6 km sur Yannick Bestaven, situé dans son ouest. Ce n'est rien. Le troisième, Louis Burton, qui vient d'effectuer une remontée fantastique, est à une trentaine de kilomètres derrière Dalin, tout comme Thomas Ruyant, quatrième, qui n'en revient pas.
Tous ces bateaux polycérés là, après 2 gros mois de course, c'est incroyable, hein. C'est assez dingue, et bon, voilà, on commence à s'habituer, hein. De toute façon, ça partira jamais par devant sur ce Vendée Globe, hein. Voilà, il y a toujours une situation qui fait que tout se recolle. Ça fera un finish haletant. Bon, d'ici l'arrivée, il va se passer encore plein de choses, mais bon, on va tous arriver la même journée, hein, comme c'est parti là, ou en 48 heures, quoi.
Ouais, les 9 premiers du classement provisoire sont même dans le coup hein, pour le podium, Patrick, alors qu'il reste l'équivalent d'une transat à parcourir. Mais vous l'avez compris, le suspense est entier à un peu plus de 8000 km des Sables d'Olonne.
On va continuer de le vivre avec vous, ce suspense. Merci Corinne Bolou. Le temps, Anissa Adadi, toujours un département des Alpes en vigilance.
Oui, ce département, c'est celui de la Haute-Savoie qui est en vigilance orange neige verglas avec cet après-midi encore des flocons des 500 mètres. Et on sait que la situation est difficile, notamment sur l'autoroute A40. Donc soyez prudents dans ce secteur. Surtout que nous avons un risque important d'avalanche également dans les Alpes. Cet après-midi, de la région parisienne aux Alpes, en passant par la Bourgogne et l'Auvergne, eh bien il va pleuvoir tout l'après-midi. Sur la moitié ouest du pays, le ciel est couvert, le temps reste sec. Nous aurons même quelques éclaircies le long de la façade atlantique. Dans le sud, au bord de la Méditerranée, le vent souffle fort, en particulier sur les côtes varoises. Mais le soleil est bel et bien au rendez-vous et le temps est sec. Les températures, elles sont plus douces cet après-midi avec 5 degrés à Metz, 6 à Lille et Strasbourg, 8 pour Dunkerque et Lyon, 9 à Clermont-Ferrand, 11 à Brest et Paris, 13 à Nice, 14 à Perpignan et 15 pour Nîmes, la maximale. Conseil d'amis, ne rangez pas trop vite vos parapluies.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La campagne de vaccination sur le terrain vue par une directrice d'EHPAD, Remy Lasserre-Saint-Maurice, avec nous dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Remy Lasserre-Saint-Maurice.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'un EHPAD du 13e arrondissement de Paris. Combien de résidents ?
94 résidents.
Et combien de vaccinés aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, 20 sont déjà vaccinés depuis fin décembre, depuis le 30 décembre. Et puis la prochaine vague, ce sera la semaine prochaine.
Vous avez tout votre calendrier d'approvisionnement et de rendez-vous pour les vaccinations.
Exactement. Et là, on est encore en train de recueillir les derniers consentements. Les médecins traitants viennent les rencontrer. Appellent aussi les familles lorsque les résidents ne sont pas en capacité de s'exprimer par eux-mêmes. Et donc voilà, ce travail-là se mène jusqu'à demain soir, puisque la commande sera effectuée demain soir auprès de notre officine de ville pour un acheminement le 19.
C'est-à-dire votre pharmacie de référence.
Notre pharmacie de référence, effectivement.
Et chez votre personnel ?
Alors chez le personnel, en fait aujourd'hui ne sont éligibles à ce vaccin que les personnes de plus de 50 ans.
Oui.
Sur notre établissement, c'est 23 personnes qui sont concernées par cette première vague de vaccination chez les personnels. Et aujourd'hui, c'est 50% qui ont déjà donné leur accord, en tout cas d'être vaccinés. On en a 40% qui nous disent qu'ils vont contacter leur médecin traitant pour savoir si c'est compatible avec leur état de santé.
Ouais.
Et donc, on aura déjà aussi un peu une meilleure visibilité d'ici à demain.
Donc, et une moitié a accepté et l'autre moitié hésite, attend, se pose des questions.
Alors, d'abord, je pense qu'on est un peu français et à ce titre-là, on est un peu malheureusement sceptique concernant les vaccins. Il y a 4 ans, le vaccin de la grippe, par exemple, c'était 30% du personnel qui se vaccinait.
Ouais.
Il y a 2 ans, c'était 60% du personnel qui s'était vacciné. Et au mois d'octobre dernier, c'est 80% du personnel qui s'est vacciné. Donc ouais. On voit bien que voilà, les mentalités évoluent aussi au sein de nos structures.
Mais c'est pas tout à fait le même événement. La grippe n'a pas mis à l'arrêt le pays et provoqué une crise sanitaire de plus d'un an désormais. Donc vous avez toute votre visibilité sur le mois. Quelles ont été les difficultés à votre niveau de directrice d'EHPAD ?
Alors, les difficultés, je dirais pas ça en termes de difficultés. Je veux dire, quand on a des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie et qui ont des problématiques, notamment cognitives, on sait que quand des choses doivent être médicalement réalisées pour elles, on doit intégrer aussi leur personne de confiance, leur famille, éventuellement leur tuteur, puisqu'on a, nous, 50% des résidents qui sont chez nous, qui ont une mesure de protection. Donc, fatalement, ces personnes ne sont pas en capacité de décider totalement par elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne les écoute pas, néanmoins. Et je pense notamment à une dame qui était biologiste dans sa vie professionnelle.
Ah oui.
Et pour elle, le vaccin est important, elle est sous tutelle, et elle avait exprimé clairement qu'elle souhaitait être vaccinée et le tuteur a totalement suivi parce que pour elle le vaccin a toujours été important. On a aussi des personnes qui au début étaient plutôt réfractaires et qui aujourd'hui se rallient aussi. Hein. Je pense à une dame qui était totalement opposée et qui aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé, souhaite être vaccinée.
Compte tenu de ce qu'elle a entendu aux informations.
De ce qu'elle a entendu aux informations,
de ce qui s'est passé
chez nous aussi, le fait qu'il y ait eu 20 personnes de vaccinées. On a notre médecin coordonnateur qui s'est fait vacciner puisqu'elle est partagée avec la PHP. Donc voilà, les choses se font petit à petit. Et nous, on vise quand même un taux de vaccination chez les résidents de 80% et chez le personnel, je veux dire, le plus possible.
Oui. À vous entendre, on a le sentiment que ça n'aurait pas pu, en tout cas chez vous, aller plus vite.
Je pense que dans beaucoup d'EHPAD, ça n'aurait pas pu aller plus vite que ça n'est aujourd'hui. Encore une fois, l'HAS a donné l'autorisation.
La Haute Autorité de Santé.
La Haute Autorité de Santé. Le 23 décembre, on est le 12. Donc c'est vrai qu'il y a un temps nécessaire, en tout cas, pour expliquer aussi ce qui se passe. Expliquer comment que ça va se passer aussi. Avant-hier soir, on a fait une réunion par Zoom avec des familles. On sent bien qu'ils ont besoin aussi de connaître un petit peu comment les choses se passent, comment on surveille derrière leurs parents, comment les médecins traitants sont associés aussi à cette démarche. C'est un temps un peu nécessaire.
Est-ce que vous avez été saisi d'horreur par le guide de 45 pages destiné aux directeurs et directrices d'EHPAD?
Non, parce qu'on a l'habitude aussi, je trouve qu'il y a pas mal de réponses aux questions qu'on pouvait se poser. Encore une fois, il s'agit pas de on lit pas ça comme un roman, faut aussi arrêter de penser que c'est quelque chose qu'on lit à la lettre, non, mais par contre ça répond à nos questions. Il y a un glossaire, il y a aussi une table des matières qui nous permet de savoir dans quel chapitre on va chercher les réponses qu'on souhaite aux questions que l'on peut avoir.
Il a été simplifié depuis,
oui,
pour partie notamment sur la question du consentement, de la matérialisation écrite du consentement.
Tout à fait, puisqu'il n'y a pas de matérialisation effectivement écrite du consentement.
Donc c'est plus simple aujourd'hui.
Oui, enfin ça l'était déjà fin décembre.
Est-ce que ces vaccinations vont rendre plus facile, vont permettre d'assouplir les visites des familles et des proches auprès des résidents?
Ça, ce sont des choses qui vont être décidées, non pas à mon niveau, à moi. Nous, on est quand même attentifs aussi à ce que le virus ne rentre pas. Nous, on a été atteints à la première vague. Ben, nous avons eu un tiers de la résidence, 31 résidents qui ont eu la Covid. 9 en sont décédés. Je pense aussi à leurs familles en les exprimant. Et puis, on a eu 23 collaborateurs qui ont eu la Covid à la première vague. Donc, c'était quand même... Depuis, nous n'en avons pas eu. Mais c'est vrai qu'on a des mesures barrières. On fait tout pour que les résidents soient libres à l'intérieur de la structure. Et ça, c'est hyper important.
Mais vous attendez des consignes nationales pour assouplir le régime des visites.
Exactement, et on fait confiance aussi à nos fédérations qui travaillent en lien avec le ministère pour que ce soit le plus adapté pour nos structures.
Merci beaucoup Romy Lasserre-Saint-Maurice. Je rappelle que vous êtes directrice d'EHPAD dans le 13e arrondissement de Paris et merci beaucoup d'avoir témoigné au micro d'Europe Midi.
Merci de nous avoir invités.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse dans les mains d'Élise Dangean pour les dernières informations de 13h, puis Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil pour La France Bouge.